Bien, et bien, bonsoir à chacune et à chacun pour cette nouvelle rencontre donc de philosophie et théologie grâce à Denis qui nous propose une réflexion sur la révélation et l'histoire. Alors c'est vrai que révélation, peut-être que c'est un... Vraiment ça appartient peut-être un peu, à part la révélation du canard enchaîné... qui a plus dans l'actualité courante. C'est vrai que révélation, c'est quand même plus un mot du patois théologique ou un mot du patois religieux. Et donc c'est intéressant, ça m'intéresse particulièrement de voir ce que tu vas nous faire avec, pour venir revisiter cette notion du point de vue donc, philosophique en lien avec l'histoire. Donc merci beaucoup encore.
Merci Marc. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Très heureux de vous retrouver. Commençons par une remarque de méthode sur nos séances. J'ai proposé à Marc Pernot, pour chacune d'elles, un mode d'approche différent. Ainsi, la première a-t-elle abordé la question de l'être plutôt par un exposé systématique. La suivante a expliqué une page de Lévinas. La troisième a reçu un invité, Jean-Baptiste Brenet, et présenté un auteur, Averroès. Celle du mois dernier questionnait un long chapitre dans son ensemble, le livre 11 des Confessions d'Augustin. Le mois prochain, nous lirons un passage de Valère Novarina, mais en sa présence et en discussion avec lui. Quant à nos deux dernières soirées, leur thème commence à se préciser, mais les manières d'y entrer restent encore incertaines. Nous verrons. C'est pour essayer de rafraîchir à chaque coup le style de questionnement. Ce soir, je voudrais vous soumettre une thèse ou une hypothèse, avec ce que cela peut entraîner d'inattendu dans l'allure du discours. Mais je préfère ne pas la formuler d'emblée. J'indique seulement le champ où elle s'applique, la question de l'histoire humaine, mondiale, dans son rapport avec le thème de la révélation. Nous allons examiner ce rapport par chacun de ces deux bouts, premièrement depuis l'histoire, puis à partir de la révélation. Ce qui traduit notre double manière d'interroger les choses, d'abord d'un œil philosophique, ensuite sous le regard de la théologie, en vue de nous demander à nouveau ce qui associe ou dissocie ces deux disciplines. Sur l'histoire, je voudrais partir d'une remarque souvent faite en philosophie selon laquelle ce mot recouvre deux notions différentes. D'une part, il désigne ce que l'on raconte à un enfant ou à des adultes, une forme de discours particulière qui agence les actions et les enchaîne. C'est l'histoire au sens narratif. D'autre part, nous nommons histoire le processus réel qui a lieu dans le monde et que le récit essaie de saisir ou de relater. Si nous disons que l'histoire du XXe siècle a produit des bouleversements sans précédent, nous entendons évoquer par là non pas seulement la chronique établie par des historiens, mais les faits eux-mêmes, révolution, guerre, dictature, libération, qui ont empli l'époque. C'est l'histoire comme processus. Certains penseurs allemands ont utilisé deux mots distincts pour se référer à ces deux acceptions, historier pour l'histoire des historiens et Geschichte pour la séquence des faits réels. Ce soir, nous dirons histoire narrative, dans le premier cas, et histoire réelle, dans le second. On pourrait choisir d'autres noms. Il est certain toutefois que si ces deux idées sont distinctes, souvent, elles se présupposent l'une l'autre. Les récits historiques veulent rendre compte d'une réalité qui existe hors d'eux, en général parce qu'ils considèrent que leur relation, le fait de les relater, fait apparaître des mouvements ou des transformations qui se sont produits comme histoire réelle. Mais la réciproque, moins évidente, est aussi vraie. Hegel, le philosophe allemand du XIXe siècle, constate par exemple que nous ne connaissons pas le développement historique de certains peuples parce qu'ils n'ont pas laissé de traces narratives qui nous soient accessibles. Et il affirme alors que, je cite, « il se peut bien qu'ils, les temps où vivaient ces peuples, dont l'histoire nous est inconnue, il se peut bien qu'ils aient été remplis de révolutions, de migrations ou de changements, des changements les plus tumultueux qu'ils soient, ils sont néanmoins sans histoire objective, c'est-à-dire sans histoire réelle, pour reprendre notre terminologie, parce qu'on ne trouve chez eux aucune histoire subjective, aucune narration historique. Il n'y a donc, pour Hegel, d'histoire réelle, d'histoire processus, que là où il existe une histoire narration. Hegel donne une page plus tôt ce qui lui apparaît comme la raison de ce lien. Nous devons considérer, dit-il, l'union de ces deux sens, histoire narration et histoire processus, comme quelque chose de plus qu'une contingence extérieure. Ce qu'elle doit signifier, c'est que la narration historique apparaît en même temps que les actes et les événements proprement historiques. C'est un fondement interne commun qui les pousse en avant ensemble. Il y a une dynamique sous-jacente, alors la citation est finie, il y a une dynamique sous-jacente qui fait apparaître simultanément, aux yeux de Hegel, l'histoire comme réalité, comme transformation effective, et l'histoire comme discours, comme relation ou récit. Comment rendre compte de cette nécessité commune? Il faut partir du fait que l'histoire comme récit n'est pas seulement la chronique des faits qui se succèdent. Une histoire n'est pas une liste d'événements classés d'après leur date. Pour se constituer comme une authentique histoire, c'est-à-dire tout simplement pour être racontable, elle doit présenter les événements dans un rapport intelligible, sensé. D'un point de vue narratif, il ne suffit pas que l'événement A se soit produit avant l'événement B, si leur succession ne fait pas apparaître un rapport. Le rapport le plus simple est celui de cause à effet. A s'est produit avant B, mais de plus, A se trouve être, selon le récit, la cause de B. À un instant donné, Madame X ouvre son sac. Et à l'instant suivant, Monsieur Y baisse la tête. Si ce sont des événements non coordonnés, dont la conjonction est fortuite, cela ne fait pas un récit. Mais si la façon de raconter induit que Monsieur Y baisse la tête gêné par ce que Madame X pourrait sortir de son sac, cela organise un segment d'histoire. Roland Barthes exprimait ce lien en disant que le ressort de l'activité narrative est, alors la formule a l'air complexe, mais elle est très lumineuse, ça fait 40 ans, plus, 50 ans que je la médite, elle est, le ressort de l'activité narrative est la confusion de la consécution et de la conséquence. La confusion de la consécution et de la conséquence. Ce qui vient ensuite, consécutif, est considéré comme effet de ce qui précède. Ce lien fonde l'intérêt du récit, permet sa compréhension. Car raconter une histoire, ce n'est pas seulement exposer une série de faits successifs, mais c'est construire une manière de les associer, un principe d'intelligibilité de leur connexion, qu'on appelle pour cela leur enchaînement. Raconter, c'est tenter de comprendre ou de faire comprendre. Le récit est une proposition d'éclaircissement grâce auquel une suite de faits, actes ou gestes se présente comme dotée d'un sens. Il n'y a pas d'histoire sans un sens de l'histoire. Une preuve, si elle était nécessaire, en est que lorsque des événements sont présentés sans que le lecteur ou l'auditeur connaisse ou comprenne le sens qui les relie. S'il reçoit le discours comme récit, il attend que ce sens inconnu lui apparaisse, se découvre. C'est ce qu'on appelle le suspense. Des faits sont racontés, sans lien, sans qu'on en voie les causes ou les effets. Mais nous supposons que ce rapport existe, qu'une cause latente va se manifester, que le fait d'allure neutre va se révéler actif, producteur de contre-coups ou de réactions. Une porte s'ouvre, sans que je sache qui tourne le loquet. Ce peut être un événement sans aucune valeur particulière. Mais si, lorsque le loquet tourne, le film le montre en gros plan, avec une musique suspensive, voire angoissante, il signifie que la cause de cette ouverture va entraîner de lourdes conséquences, dangereuses pour le personnage qui dort tranquillement sans s'aviser de rien. Cela induit que le fait va avoir un sens, qui sera indiqué plus tard, mais dont l'explication est suspendue, ce qui produit le suspense. Il n'y a de récit que par la présupposition d'un sens qui, s'il n'est pas manifeste, se manifestera. On peut dire alors que le déploiement de l'histoire livre la manifestation progressive de ce sens, c'est-à-dire, au sens le plus strict et simple, sa révélation. Le récit le plus élémentaire ne se conçoit que comme révélation progressive d'un rapport significatif au départ ignoré. L'histoire narrative n'existe comme histoire que si elle fait sens, si elle révèle un sens. C'est le principe qui la constitue et la fait avancer. Pour expliquer son goût des romans policiers, le cinéaste russe Sergei Eisenstein aimait dire que ses livres, les romans policiers, étaient des analogues de la quête du Graal. Le roman policier, dans sa forme classique, est une narration pure, efficacement construite, et le Graal du récit, c'est le sens. Le but est la fin de la quête. Déplaçons maintenant ce constat vers l'histoire processus. Celle-ci, histoire objective, histoire réalité, n'est proprement une histoire que si elle est apte à être racontée. Quand elle devient récit, son développement de discours se produit comme la manifestation d'un sens, qui fait d'elle une authentique narration et non la succession fortuite de faits dénués de liens. On peut dire alors que l'histoire, la grande, avec un grand H, s'exprime comme révélation, mise à jour progressive d'un sens initialement inconnu. En ce sens, si j'ose dire, les polémiques récentes contre un sens de l'histoire sont tout simplement absurdes. Ou bien il n'y a pas d'histoire, mais seulement un chaos de faits dispersés et sans aucun lien, ou bien, si on admet l'existence d'un processus historique, quel qu'il soit, il lui faut bien un sens pour se produire comme histoire et comme développement. À vrai dire, dans ces polémiques, la haine contre Hegel, contre Marx et même contre les Lumières est venue prendre la place de la réflexion raisonnée. Mais ce constat ouvre lui-même une alternative. Car l'émergence de ce sens peut être entendue de deux façons distinctes. Première possibilité, l'histoire réelle déploie une signification qui lui est conférée du dehors. Dans ce cas, elle révèle son sens comme une bâche qu'on soulève révèle ce qu'elle avait caché. Elle, l'histoire, la bâche si vous voulez, met à jour une donnée dont la nature lui est extérieure. Une donnée, donc, non historique. L'histoire devient la manifestation d'un a priori qui lui échappe et qu'elle se réduit à exprimer, mais de façon seconde. Si l'histoire humaine révèle un sens divin qui la transcende et lui préexiste, elle n'est que le signe d'une instance qu'elle vient désigner, signifier du dehors. Deuxième hypothèse, l'histoire se produit comme révélation. L'histoire, et elle seule, est porteuse du sens qu'elle fait apparaître. Le sens est interne à l'histoire, mais il ne peut être connu qu'à mesure qu'elle avance. Il n'a aucune existence, même putative, en dehors du processus historique dans lequel il prend forme et figure. Dans ce cas, on peut dire que le sens de l'histoire, c'est l'histoire elle-même, que tout le sens qu'elle dévoile y est contenu, et qu'en ce sens, l'histoire fait sens, qu'elle fait le sens se fait en elle et par elle. Nous aurons à revenir sur cette alternative. C'est là une première caractérisation philosophique d'un lien entre histoire et révélation. Abordons maintenant la question par son autre côté théologique. Entrons-y par la révélation et les questions qu'elle soulève. Nul sans doute mieux que Descartes n'a formulé le problème en apparence insoluble que pose la révélation au sens théologique du terme. Il écrit, la formule est très célèbre, dans l'épître dédicatoire des Méditations métaphysiques, quoi qu'il soit absolument vrai qu'il faut croire qu'il y a un Dieu, parce qu'il est ainsi enseigné dans les Saintes Écritures. Et d'autre part, qu'il faut croire les Saintes Écritures parce qu'elles viennent de Dieu, on ne saurait néanmoins proposer cela aux infidèles qui pourraient s'imaginer que l'on commettrait en ceci la faute que les logiciens nomment un cercle. Dans son ironie ingénue et sa logique parfaite, cet argument expose de façon irréprochable le problème de ce que nous appelons révélation. Si la révélation est la manifestation d'une vérité, comment nous est-il donné de la reconnaître, de la savoir vraie? Comment faisons-nous la différence entre la révélation et une illusion produite par des stimuli physiologiques, mentaux, voire démoniaques? Selon la Bible, vous le savez, les faux prophètes savent faire de vrais miracles. Comment connaissons-nous le vrai comme vrai? Si, écrit Descartes, nous le reconnaissons tel par l'Écriture sainte, qu'est-ce alors qui garantit, qui valide la véracité de l'Écriture? La question se trouve renforcée depuis que nous lisons les textes bibliques comme un ensemble complexe, aux auteurs multiples, dont la transmission a été différenciée, c'est-à-dire depuis que nous les lisons comme des écrits historiques. Nous voyons dans cet héritage des traditions qui reçoivent certains textes et pas d'autres. Comment établir que notre rapport à l'Écriture, le nôtre, est le vrai? Ajoutons qu'aujourd'hui, ces questions sont accentuées par notre situation cultuelle et culturelle. L'autorité de la Bible n'est plus seulement aux prises avec l'ignorance, dans un face-à-face ou un tête-à-tête, au moins supposé, entre religion et athéisme. Elle n'est pas confrontée à la seule diversité des héritages chrétiens ou bibliques, si elle l'a jamais été. Mais, dans chacune de nos sociétés, du plus proche au plus global, elle avoisine désormais quotidiennement des écritures différentes et donc d'autres révélations, même si le mot peut être différemment entendu selon les religions. Coran, sutra du bouddhisme ou de l'hindouisme, ou encore textes sacrés de cultes plus minoritaires, encore près de nous, mais ailleurs dominants, à quoi s'ajoutent des interprétations rivales de chacun de ces livres. La valeur intrinsèque de la révélation est donc plus ébranlée que jamais. Et si on revendique pour socle la conviction intérieure, la foi personnelle, ce recours nous renvoie aux interrogations sur les sources de cette foi. L'avons-nous reçue par éducation, par voisinage, par adoption, par influence? L'origine de la foi est désormais l'objet d'investigations psychologiques, culturelles, sociales. Si, en retour, la foi prétend s'étayer sur l'autorité des Écritures, nous voilà reconduits au soupçon de cercle logique qu'évoque l'humour de Descartes. On peut alors choisir de congédier l'idée de révélation. Ce n'est pas rare, en particulier dans les parages de la théologie libérale, qui nous est ici proche et précieuse. Or, discréditer toute révélation, c'est se tenir quitte de la question de la vérité, au profit d'un relativisme, sans doute plus recevable que la brutalité dogmatique, mais dont la consistance théologique devient alors très molle. Sous cet œil, tout le monde peut tout croire, non seulement du point de vue du droit des opinions, qui est intangible, mais devant la question du vrai. De quoi s'autoriserait alors une quelconque critique, et même plus profondément, tout souci d'un témoignage. Témoigner, c'est vouloir attester quelque chose de vrai, ou que l'on tient pour tel. En ce point, me semble-t-il, se présente devant nous le concept d'histoire. Prenons l'exemple de la Bible hébraïque. Cette série de livres rapporte une suite d'histoires organisées entre elles. Ils, ces livres, relatent le devenir d'un peuple, depuis ses origines légendaires, jusqu'à différentes étapes de son évolution, récits étayés ou complétés par des documents, traités juridiques, recueils d'aphorismes, poèmes, discours ou harangues publiques. C'est un énorme corpus qui rend compte de la vie de communautés humaines liées par une langue ou un groupe de langues voisines, au moins sur plusieurs siècles. Mais par ailleurs, cet ensemble de livres ne rapporte pas seulement une histoire ou des histoires, mais il constitue en lui-même un fait historique. Marc est très savant sur ces choses. En effet, en tant que corpus, ces documents sont une histoire. Très longue, elle aussi. Annale de ses écrits, de leur production, de leurs multiples reprises, croisements, adoptions et mises à l'écart, corrections, décalages et renvois internes. Cette histoire, celle des textes, du corpus, censément plus courte que la précédente, s'étend sur quelques siècles aussi. Mais d'un autre point de vue, elle est plus longue, car elle se poursuit pendant les siècles et millénaires ultérieurs par les reprises et relectures qui la transmettent jusqu'à nous, Talmud, commentaires post-talmudiques, puis philosophiques, philologiques ou émanant des sciences humaines. Ainsi, l'histoire ancienne de ce que nous appelons le peuple hébreu forme-t-elle elle-même un processus, l'histoire effective, et un discours, histoire-récit, qui n'ont cessé d'interagir l'un sur l'autre. La succession qui nous est livrée comme la Bible, Ancien Testament, qui conduit de la Genèse ou de l'écriture des tout premiers livres, pas nécessairement la ou les Genèses, jusqu'au dernier livre prophétique, avec tous les problèmes que pose l'exégèse de cette chronologie, constitue bien une histoire, de quelque façon qu'on la prenne. Elle est fortement dotée d'un sens, aussi bien dans la conception interne au récit que dans l'analyse qu'on peut en faire. De l'intérieur, de nombreux épisodes sont donnés pour faire sens. La chronologie des patriarches, leur filiation, les événements principaux qui organisent l'histoire du peuple et les constituent comme histoire et comme peuple, départ originaire d'Abraham, exil, sortie d'Égypte, exode, don des lois, ancrage territorial, succession des règnes, nouveaux exils, retour. Il ne s'agit pas là pour les rédacteurs ou les organisateurs du corpus d'une simple chronique par juxtaposition de faits, mais bien d'un processus doté d'un sens, avec ses points de départ constitutifs, ses étapes signifiantes, son orientation générale. Mais de l'extérieur aussi, la chose peut être observée, analysée et redoublée comme devenir historique. Pour prendre un exemple qui n'est pas mineur, les pratiques de sacrifice et leurs critiques, de plus en plus poussées, de plus en plus explicites, de l'interruption du sacrifice d'Abraham jusqu'aux exhortations antisacrificielles des prophètes, cette histoire des pratiques de sacrifice dessine une évolution sensée significative qui dégage une perception, une orientation et une signifiance, trois sens du mot sens, qui peuvent être travaillés par l'exégèse et le commentaire. J'avais été très frappé, moi, dans ma jeunesse, par la lecture de Girard, de René Girard à ce propos, parce que j'avais cru, même de façon peut-être excessive, découvrir avec lui, après lui, que au fond, l'histoire que racontait la Bible était l'histoire de cela, d'un dégagement progressif et d'une critique extrêmement intraitable de toute idée de sacrifice. Toute idée, toute pratique, bien sûr. L'histoire du peuple hébreu, du supposé peuple hébreu, ainsi considérée, a donc un sens, elle fait sens, elle manifeste un sens. Ce sens est indissociable du fait que les textes où il s'exprime sont retenus, colligés, sélectionnés, établis, copiés, transmis, commentés et parviennent jusqu'à nous. On peut faire évidemment la même observation à propos du Nouveau Testament. À ceci près que ce second ensemble de textes, avec des procédures distinctes mais voisines, se pense non seulement comme histoire et commentaire de l'histoire d'un peuple, mais biographie d'un individu, d'une personne, et commentaire de cette vie. Le processus est globalement comparable. Récit relatant des faits, relatif archives concernant ces faits et leurs conséquences proches, récit des actes, épîtres, qui constituent à la fois une histoire réalité, la vie d'un homme, de ceux qui l'entourent, le suivent, le combattent, et une histoire de ses écrits, de leur fabrication, de leur constitution en canon, des textes voisins que ce canon écarte, et la série des commentaires internes et externes auxquels ces faits et livres donnent lieu dans un premier temps, puis jusqu'à nous. Faisons à ce propos deux remarques. D'une part, l'histoire de cet homme est aussi l'histoire d'un peuple qui se rassemble autour de lui et se constitue par l'Église comme son corps continué. Cette histoire, nous le savons, se pense elle-même comme continuation et comme reprise de l'histoire antérieure du peuple hébreu ancien. Très frappant exemple de duplication. Une nouvelle histoire continue une histoire précédente, mais en la reproduisant pour l'accomplir dans sa vérité définitive. Quoi qu'on pense de ce schéma, il est puissamment, intensément, extraordinairement historique. D'autre part, cette histoire des écrits et communautés chrétiennes anciennes se prolonge dans un développement historique particulièrement dense et riche, celui des devenirs, reprises, avatars de ce qui devient bientôt la chrétienté, le christianisme, dans ses multiples orientations successives avec les ruptures et scissions qui le transforment, schisme d'Orient, réforme et autres. On peut donc dire que lorsque je prends un livre de la Bible, ce que je tiens en main est le dépôt et l'action continuée de cette histoire multiple et rassemblée. Par les faits racontés, peuple hébreu ancien, vie de Jésus et vie des premières communautés chrétiennes, et par l'histoire du texte jusqu'à moi. Ancien Testament, dans un certain canon et pas un autre. Nouveau Testament, dans une certaine lecture et pas une autre. Commentaire explicite ou indirect, porté par le livre et déjà par ses traductions, qui se rattache à une appartenance confessionnelle et pas à une autre, et à une certaine façon de comprendre et d'exprimer cette appartenance, jusqu'aux commentaires que j'en reçois, que j'en lis et éventuellement que j'en fais moi-même ou en propage. La révélation qui me parvient alors par ces livres, si bien sûr je la reçois comme telle, c'est exactement cette histoire, en tant qu'histoire, dont ce livre rassemble les traces et se propose de continuer le parcours. La révélation que je reçois est cette histoire qui a commencé de sourdre il y a quelques milliers d'années en Mésopotamie et qui arrive jusqu'à moi convoyé par ces innombrables chemins, transferts, transports, mais qui font tout de même une route, puisque je me trouve sur son tracé pour en devenir un jalon. Vous l'avez compris, je ne veux pas seulement dire qu'une révélation a eu lieu, dont ces textes et leur histoire nous donnent connaissance, mais que cette révélation est le chemin et le sens de l'histoire de cette transmission. Rien que cela, mais tout cela qui est énorme, car c'est le processus de l'histoire humaine comme telle. Je voudrais alors clarifier une double thèse ou hypothèse que vous avez maintenant vu se dégager. En grossissant le trait, elle peut être formulée ainsi. Ce que nous appelons révélation est la vie d'une histoire. Et ce que nous appelons histoire est le devenir d'une révélation. Ce qui me parvient comme révélation a été dit, écrit, fait et pensé par tous ces hommes et femmes depuis des millénaires. Ils ont recueilli, transmis, sélectionné, reformulé ce que, par ce livre, je tiens désormais dans mes mains. Ce parcours, ce tracé, ce chemin qui vient à moi est singulier au sens très fort du terme, c'est-à-dire qu'il est à la fois absolu et relatif. Il est relatif dans cette mesure évidente où d'autres chemins constituent d'autres voies qui parviennent à d'autres humains que je peux connaître, respecter, dont je peux même pressentir le sentiment personnel. Lorsque je lis les pensées d'un maître bouddhiste ou de Gandhi ou d'un mystique soufi, quelque chose me parvient que je peux, au moins intuitivement, entendre ou recevoir. Il se trouve néanmoins que ce sont des voies distinctes de la mienne. Et très nécessairement, ne serait-ce que par le fait qu'elles sont nombreuses et que je ne peux pas les parcourir toutes simultanément. Le monde contemporain les rend plus proches, plus voisines. Des bouddhistes font partie de mes intimes. Je dialogue avec des musulmans. Une de mes très anciennes et très chères amies est plongée dans la spiritualité hindoue. Donc mon rapport à ce que je reçois ou cultive m'apparaît évidemment relatif à mon histoire personnelle, et donc, en ce sens, singulier. Mais du même coup, et simultanément, ce « lait », selon la langue ancienne, vous savez, il faudrait dire « ce lait ». Mais si je vous dis que ce « lait », ça va prêter à confusion. Ce « lait » est absolu, ça va pas. Alors on va dire « ce « lait » est absolu » parce que, pour moi, c'est celui-ci, et non un autre, auquel j'ai affaire. Bien sûr, je peux croiser ou rencontrer des héritages divers, mais par des influences, des legs, des amours, c'est-à-dire par une histoire, c'est ce chemin-ci que je suis. On pourrait même jouer sur l'ambiguïté de « suis ». C'est ce chemin-ci que je suis et non un autre. Donc cette voie se présente à moi avec une forme d'absoluité, en tant simplement que je n'ai qu'un chemin, une vie. Je suis inscrit dans une histoire et c'est dans et par celle-ci que quelque chose comme une révélation ou que je prends pour tel, me parvient. Ne voyons là aucun déterminisme étroit, je ne prétends pas, certes pas, que notre voie soit préfigurée dans des choix de nos parents ou de notre entourage. Personnellement, je l'ai déjà dit, je suis né d'une famille juive, de convictions athées, d'orientation fortement marxiste, et me voici dans cette salle, ici, ce soir, parmi vous, parmi nous. Mais si je m'y trouve, c'est pour avoir suivi, après ma famille, et pourtant dans un certain décalage par rapport à elle, un chemin qui en a conduit les membres depuis un judaïsme inscrit en terre arabe jusqu'à la France, et donc à la République, et donc au métier d'instituteur, et par là au communisme, et donc à une exigence d'universalité, d'égalité, de justice, à un messianisme historique, et donc ici. C'est en tout cas ainsi que je le reçois et le rechoisis dans les conditions de notre monde, aujourd'hui sur cette terre. Car cette voie, je l'ai reçue et à chacune de ces étapes, rechoisie ou choisie, orientée par mes inductions. C'est exactement la définition de l'histoire. Elle est un tracé qui nous précède et nous situe et auquel nous donnons sens à chaque moment par nos interprétations, nos préférences, la direction de nos pas. Une révélation, la manifestation d'une vérité, si elle m'arrive, me parvient par cette histoire, dans cette histoire et comme histoire. La révélation, la vérité qui s'impose à moi, mais que je choisis, et qui me conduit dans cette salle, c'est l'histoire dont je suis à la fois l'héritier et, à la place où je me trouve, le protagoniste. Selon cette compréhension, vous le voyez bien, la multiplicité des textes, des sources, des interprétations qui se côtoient, se complètent ou se combattent dans la transmission de la Bible jusqu'à nous, ne constitue plus un obstacle à sa véracité. C'est au contraire cette histoire qui constitue une sorte d'élaboration multiséculaire ou multimillénaire de cette véracité elle-même. L'histoire qui nous a transmis le corpus biblique est un immense laboratoire où tout un segment de l'humanité, et bientôt une large part de l'humanité dans son ensemble, est venu construire la vérité biblique comme révélée. Des affirmations qui étaient douteuses, incertaines, partielles, régionales, comme « tu ne tueras point » ou bien « aime tes ennemis » ont acquis une puissance de vérité parce qu'un immense processus historique, en les déposant, les traduisant, les transmettant, les contestant, les combattant, les réformant, leur a conféré une véridicité incomparable qui transperce et traverse l'ensemble du processus historique de l'humanité. Je ne prétends pas que l'héritage biblique ait l'exclusivité de cette puissance, je pense exactement le contraire, mais il me semble qu'on peut dire qu'il détient une singularité qui est pour nous indissociable de l'immense flux d'histoire humaine qui le conduit jusqu'à nous, jusqu'à cette Bible que je tiens dans mes mains. Mais, si on peut l'entendre ainsi, comme je vous le propose, la révélation comme histoire, c'est seulement sous la condition d'une certaine compréhension de l'histoire. Car pour que l'énoncé précédent puisse être reçu, il faut admettre de façon préalable que ce qui nous parvient comme histoire, l'histoire de tous ces gens qui ont fait ça, que ce qui nous parvient comme histoire se produit comme manifestation d'un sens, conformément à ce que nous avons établi au début de cet exposé. Or, cette reconnaissance, dont je dirais, par jeu de mots, qu'elle est seulement de bon sens, fait aujourd'hui, j'y reviens, l'objet d'une rageuse bataille d'idées. On veut affirmer que l'histoire est erratique, voire absurde, et en tout cas que toute tentative d'y lire un déploiement sensé serait une façon de nier la liberté des hommes, et donc de les assujettir à la domination féroce d'un destin. Je n'admets pas cette vue. Le cours de l'histoire et son sens me paraissent au contraire étroitement liés à un devenir imprévisible, à son ouverture, et donc à la responsabilité humaine qui y prend place. Mais les séries multiples de ces bifurcations et prises de route ont dessiné un processus qui fait sens. Et ce processus est difficilement séparable de la construction et du travail de ce livre que je tiens en main et qui en constitue au moins une pièce majeure, peut-être une clé de voûte. Il me semble que cela construit et livre un sens, ce fait qu'il s'est trouvé un peuple, ce que nous appelons un peuple, vu aujourd'hui, pour formuler le message biblique, le façonner, l'interpréter, le relire, le transmettre, le transformer et le léguer par une série d'étapes aux hommes que nous sommes et qui en héritons. Ailleurs, d'autres peuples, d'autres histoires font du sens aussi. Celle-ci a reçu et produit le sien. De même, je vois un sens, le mot est faible, au fait qu'un homme soit venu, héritier lui-même de ce peuple et de cette première histoire, pour le transformer, le peuple, l'a transformé, l'histoire, par une vie et une production de paroles, à mes yeux, uniques, et qui inscrivent une césure absolument singulière, me semble-t-il, dans les devenirs humains. Du sens se forme dans ce fait que leur legs, legs du peuple et de cet homme, se sont transformés, déformés, défigurés, retrouvés, rénovés pendant une trentaine de siècles jusqu'à nous. Et que l'ensemble de ces processus et des récits qui en rendent compte et les façonnent nous sont parvenus jusqu'à nous rassembler ici, ce soir, dans cette maison. Le cours des affaires humaines serait un maelstrom chaotique si nous nous refusions à reconnaître que cette histoire se constitue et se développe comme manifestation de ce sens, et donc, au sens le plus sobre du mot, comme sa révélation, c'est-à-dire comme son apparaître, sa manifestation devant nous. Je vois, au terme très provisoire de ce processus, une stupéfiante énigme que je formule à la première personne en disant « je », mais elle se pose à chacun de nous qui sommes ici et aux autres aussi bien. L'énigme est qu'il y ait un sens à ce que ce « je », à ce que « je » soit pris dans cette narration gigantesque, à ce titre, de cette manière, ici et maintenant, et que donc quelque chose de ce sens général, commencé quelque part, au bout de la mer, avec quelques Hébreux, continué avec un Nazaréen, poursuivi avec tous ceux qui ont écrit, puis lu, puis interprété et transmis leurs faits et dires, que quelque chose de ce sens général me parvienne, à moi, personne singulière et quelconque parmi toutes les autres, et que je tienne ce livre dans mes mains, et que donc, en ce sens, quelque chose de cette révélation s'adresse à moi. C'est, me semble-t-il, la grande énigme et la grande stupeur que fait lever la révélation comme histoire. Cette articulation obscure entre la communauté de ceux qui lisent, entendent, transmettent, et l'aléa d'une personne, vous, moi, quiconque, qui n'était pas particulièrement disposé à ce que cette vague roule jusqu'à la rive où elle est assise et regarde la mer venue poser ce récit à ses pieds. Telle est donc la thèse que j'annonçais vouloir vous soumettre. La révélation et l'histoire ne font qu'un. Elles sont si intriquées que chacune d'elles ne peut pas se distinguer du déploiement de l'autre. Je connais les objections que ce parti pris soulève. Kierkegaard disait, contre Hegel, que le fait d'admettre l'histoire mondiale comme manifestation de l'esprit revient à se soumettre à l'état des faits tel qu'il est. Je pense exactement le contraire, malgré tout mon immense attrait pour Kierkegaard. La question la plus forte, l'énigme théologique qui m'anime le plus intensément, consiste dans la surprise d'affirmer à la fois cette révélation comme histoire universelle et l'intimité d'un étonnement, d'une surprise personnelle, intérieure, devant la transcendance. Ou bien, pour le dire autrement, de tenir ensemble les deux bouts de ce qui vous apparaît peut-être comme une contradiction, prétendre le mois dernier, derrière Augustin ou Lévinas, que le fond de la création lui est externe, et dire ce soir que le sens de l'histoire lui est immanent. Oui, c'est tendu. Permettez-moi d'espérer, de croire, d'espérer croire, que cette tension de l'âme, dont j'essaie de ne lâcher jamais aucun des deux termes, loin d'affaiblir la confiance qu'on appelle foi, intensifie sa vibration. Je m'arrête là.
Merci beaucoup.
Oui, on a parlé tout à l'heure de vos idées marxistes au départ, et j'aurais voulu savoir ce que le déterminisme historique avait pu penser de la personne du Christ, puisque pour l'histoire de ce courant de pensée, l'individu comme l'événement n'a pas de sens propre, et quelle qu'ait été leur action, la lutte entre les classes sociales et la prédominance du peuple doit inéluctablement conduire au même résultat. On en a l'exemple avec Georges Duby, par exemple, qui a eu tellement d'ennuis après avoir publié sa chronique sur la bataille de Couvines, que pendant 6 mois, sa cellule du Parti communiste l'a accusé de déviationnisme. Bon. Donc, on le retrouve également dans l'incapacité du déterminisme historique, notamment donc chez les historiens soviétiques, à comprendre le processus du système féodal qui implique la relation d'un homme à l'autre, d'un suzerain au vassal, et qui est totalement opposé à l'idée des faits et du déroulement de l'histoire. Alors, comment est-ce que le déterminisme historique soviétique a pu concevoir la personnalité du Christ, la personne individuelle du Christ?
Alors, c'est une question très... question très forte qui demanderait des réponses à plusieurs étages. Il y a ici des personnes qui sont beaucoup plus savantes que moi sur les controverses historiques et les débats auxquels elles ont donné lieu dans les récentes décennies, moi je les ai vécues en quelque sorte comme spectateur et aussi un petit peu du point de vue de la lecture philosophique. Voici ce que je voudrais dire. Premièrement, mais vous le savez très bien, ce que vous appelez le déterminisme historique est une lecture extrêmement particulière de ce qu'a été dans votre aventure intellectuelle de ces deux derniers siècles, le marxisme, les différentes compréhensions de Marx, leur transmission, leur étude, etc. Ça a été extrêmement particulier. C'est une histoire, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que ça a commencé, après la mort de Marx, par la réinterprétation assez riche, enfin beaucoup plus riche qu'on a voulu le dire après, en réaction à tout cela, par Engels, et la reformulation et la réécriture par Engels de ce qu'il avait entendu, de ce qu'il avait compris, de très près des analyses de Marx, et qu'il essayait de transmettre au mieux. Et puis, à la faveur de toute une histoire multilinguistique, multiculturelle et multinationale qui s'est jouée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, par tout un travail de réinterprétation et de reformulation des thèses de Marx, qui a abouti à l'œuvre que moi je pense personnellement gigantesque de Lénine. J'ai eu la grande joie de découvrir, il n'y a pas tellement longtemps, que Bultmann avait été un lecteur très attentif de Lénine, et très enthousiaste en tout cas au départ, en 19, en tout cas, ça a dû changer un peu après, mais bon, c'était en tout cas quelqu'un qui portait une très grande attention. Et puis, bien sûr, et surtout, et c'est là que ça rejoint les termes de votre question, qui sont rigoureux, par tout le système de réécriture de cette affaire, par le marxisme soviétique, qu'on appelle soviétique, c'est-à-dire ce qui est dans ma langue, j'appellerais globalement stalinien, pour essayer de caractériser une période de l'histoire du XXe siècle, où le marxisme n'était pas seulement une manière de comprendre l'histoire, mais une manière de justifier la domination d'un certain pouvoir d'État. Hein. C'est-à-dire c'était une idéologie étatique, avec toutes les simplifications, les raideurs, les... Alors c'était un énorme mouvement, on sait aujourd'hui, on découvre aujourd'hui que dans la vie intellectuelle de la Russie soviétique, même dans les années les plus sombres, il y avait toutes sortes de courants. Évidemment, les gens essayaient de dire des choses, de les comprendre. Il n'empêche que globalement, ce qui nous est arrivé à l'époque, surtout dans la version la plus raidie de ces thèses, était un déterminisme historique étroit. Je ne pense pas que même dans cette forme extraordinairement caricaturée, simplificatrice et néfaste, enfin, et dominatrice, et qui a servi à justifier des pratiques abominables, je ne pense pas que même dans ce régime-là, les tenants de cette idéologie auraient dit que l'individu n'avait aucune importance. Je ne pense pas ça. Je pense que la question du rapport entre la place de l'individu dans l'histoire, selon ses conceptions, était une affaire très compliquée. En tout cas, il y en avait un qui avait une énorme importance, c'était Staline lui-même, hein, puisqu'on en était dans ce même contexte à l'idolâtrer, ses mérites, son invention, son génie, son... Vous voyez, donc c'est très, très complexe. Comment ces gens allaient-ils défendre l'idée que l'individu ne voulait rien dire, alors qu'il vouait dans le même temps toute une espèce de culte à un individu lui-même.
Et toute la personnalité.
Voilà, dans ce cas-là, de ce que ce culte pouvait avoir d'absolument sinistre. Alors, ça c'est un fond. Donc, maintenant, derrière ça, il y aurait la question, bon, qui évidemment m'intéresse plus, de savoir, dans la pensée de tous ces gens, et de ce qu'il y avait de plus intéressant parmi eux, et surtout derrière eux, c'est-à-dire de Marx, derrière de Hegel, et des révolutionnaires, en tout cas jusque dans les années 20, qui essayaient de penser une transformation très profonde de la société et de la vie, qu'est-ce que voulait dire le Christ ? Qu'est-ce que ça voulait dire cet événement du Christ ? Alors là, vous savez, c'est compliqué, il faudrait faire la différence entre les luttes qu'ils ont essayé de mener, mais compliquées, contre l'Église orthodoxe russe, la position qu'ils avaient contre... Moi, je pense personnellement, que ces gens étaient nourris d'une spiritualité messianique. Je pense qu'ils étaient nourris de ça. pas tous, Staline, je pourrais pas dire, mais en tout cas, puis ça m'intéresse relativement, mais en tout cas jusqu'aux années 20 incluses. Je pense qu'ils étaient nourris de cette idée d'une rénovation profonde de l'humanité, et on voit dans de très nombreux textes, y compris chez Lénine, qu'ils s'alimentent à toute une série d'écrits qui sont des écrits pauliniens, qui sont des écrits évangéliques, en disant voilà, eux ils avaient fait ça, eux ils avaient dit ça, et nous on va le faire. J'ai vu, moi, en un certain sens, qui était communiste dans ma jeunesse, j'étais nourri de se dire oui, ils l'ont dit, mais nous on va le faire. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils pensaient? Comment est-ce qu'ils rendaient compte de l'événement historique considérable, à leurs yeux, hein, moi je ne dirais pas comme ça, que représentait la mutation qu'a été la vie de cet homme? Il me semble que ça doit se prendre de deux façons. D'une part, ce que j'ai essayé de dire ce soir, c'est que ça ne veut strictement rien dire que l'histoire détermine tout et tout le monde. C'est nier le concept d'histoire que de le dire. L'histoire, c'est c'est comme si vous disiez que dans un récit, mettons un récit n'importe lequel, tout est donné au départ. Si tout est donné au départ, il n'y a pas de récit. Il n'y a pas de récit. C'est-à-dire, le récit se construit par l'articulation entre la surprise, c'est-à-dire quelque chose qui arrive et qui n'était pas prévu, et l'étrange reconnaissance de dire « ça a un sens ». Vous voyez, c'est ça. C'est dans cette ambiguïté. Donc, quand on est pris dans une histoire, comme nous le sommes aujourd'hui tous, la question est de savoir ce qui se produit entre nos choix, ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on est amené éventuellement à essayer de produire, et quelque chose comme un sens global qui nous précède, qui est donné, et voilà. C'est cette articulation-là qui fait le mystère. Mais c'est le même mystère que celui de la supposée toute-puissance de Dieu et de la liberté humaine. C'est le même problème. On peut appeler ça d'un côté histoire, on peut appeler ça de l'autre côté grâce divine. La question de cette articulation, à mes yeux au moins, est la même que celle qui se pose entre l'affaire de dire, s'il y a du divin, le divin, alors à ce moment-là, comme a dit un jour une dame dans une réunion à laquelle j'assistais ici, comment et pourquoi, quel besoin aurait-il eu le Christ de s'inquiéter parce qu'il savait déjà tout ce qui allait se passer après.
Si vous voulez. Oui, mais il fallait passer avant d'abord.
Oui, c'est ça. Eh bien, si vous voulez, la question de rapport entre l'histoire et l'individu, je pense au fond que l'histoire a pris la place, c'est ce que dit Hegel, et c'est la place énorme de Hegel dans ce problème, mais je réfléchis en vous le disant, l'histoire a pris la place d'un certain devenir collectif dans l'humanité, de ce que nous pouvons appeler la grâce. Je crois que c'est ça. L'histoire, c'est ça, à mes yeux au moins. Mais ça suppose la liberté. Parce que si la grâce annihile toute liberté, d'abord c'est plus une grâce, et ensuite, la question n'a plus aucun sens. Alors je dirais ça. Et deuxièmement, je dirais dans la compréhension, alors je vais m'arrêter là, dans la compréhension de ce que c'est que notre histoire globale comme humanité, quelle est la place de cet événement, de cet homme et de cette parole. C'est-à-dire quelle est sa singularité, comment analyser sa singularité. À mes yeux, elle est totale, cette singularité, elle est absolue.
Donc moi j'ai trouvé très intéressant ce que tu nous as dit sur l'histoire, en particulier que cette révélation s'adresse à moi, me parvient en s'adressant à moi. Et je crois qu'effectivement c'est là que se joue en fait la vérité ou la révélation elle-même. C'est-à-dire que la révélation elle-même, je ne sais pas si c'est tant le contenu d'une histoire, l'histoire d'Abraham ou je ne sais pas quoi, mais la révélation, c'est ce que peut produire cette histoire dans mon existence personnelle. C'est-à-dire que ce que tu as dit sur le Christ, qui en même temps accomplit, dans un certain sens, répète l'histoire passée, mais répète l'histoire précédente, mais en l'accomplissant, c'est la même chose pour nous, en fait. C'est-à-dire que la vérité ou le contenu de la révélation, c'est pas tant une connaissance que quelque chose qui doit s'accomplir en nous. Et ça, on le voit sans arrêt dans le texte biblique. Par exemple, quand dans le psaume 1er, par exemple, on dit « Heureux l'homme qui médite la parole de l'Éternel, la loi de l'Éternel, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui produit son fruit en son temps. » Donc on voit que la révélation, donc la loi de l'Éternel, la loi de Dieu, donc c'est typiquement la révélation, c'est-à-dire que la loi, la Torah, a été donnée à Moïse en particulier. Mais la vérité de cette révélation, elle est dans le fait qu'elle vient irriguer notre être et faire que nous pourrons produire du fruit, mais pas le fruit de Moïse, notre fruit en notre temps, du lecteur en fait. Et donc la vérité de la révélation, c'est notre histoire personnelle. Et ça se retrouve sans arrêt. Par exemple, dans le prophète, on lui dit « voici le rouleau du livre ». Il n'est pas à apprendre par cœur et à débiter comme un magnétophone. Le rouleau du livre, il doit être mangé par le prophète, c'est-à-dire déconstruit, digéré, et qu'ensuite le prophète produise sa parole, qui va être parole de Dieu. Et c'est-à-dire parole de Dieu au sens d'une parole qui va être créatrice de nouveautés dans l'histoire. C'est-à-dire d'un monde où il y a de l'inouï avec une parole qui va apporter quelque chose qui n'avait jamais été entendu avant. Donc ça, c'est typiquement de la révélation, en fait. Mais la révélation, c'est-à-dire la vérité du rouleau du livre donné au prophète, elle est dans le fait que le mangeant, l'assimilant, il devient source d'une parole neuve, en fait, et créatrice. Alors ça je crois que c'est même plus que ça, c'est-à-dire que c'est contenu dans la langue biblique, en fait. Parce que les mots, bon, c'est bien connu, mais par exemple, la connaissance. Alors on peut dire, voilà, il y a une connaissance à travers l'Écriture. Mais le verbe même connaître dans la Bible, c'est bien connu, puisqu'on en rigole. Voilà, on dit connaître bibliquement, comme Adam connut Ève, sa femme. C'est-à-dire que cette connaissance, elle n'est vraie que si elle nous connaît dans ce sens-là, comme la parole de Dieu où l'Esprit a connu Marie pour que, répondant qu'il me soit fait selon ta parole, puisse naître le Christ. Donc cette histoire de Marie, elle n'est, elle n'est révélation vraie que si nous-mêmes, elle va permettre en nous un processus de fécondation extraordinaire. Donc ce mot connaissance, il a ce sens-là dans l'hébreu, mais beaucoup d'autres mots aussi. Par exemple, le mot de la révélation, c'est gala, G-L-H, quoi, en fait, si vous voulez, guimel, lamed, he. C'est découvrir quelque chose de caché et d'inconnaissable, comme par exemple on découvre les pieds de Noé. Bon, là encore, avec plein d'euphémismes, mais ça se traduit, oui, par apocalypse en grec. On pourrait dire dévoilement, on retire la bâche pour voir quelque chose qu'on ne pouvait pas lire. Mais c'est plus compliqué que ça, si vous voulez, parce que ce verbe, il veut dire aussi transporter ailleurs. Alors on pourrait dire c'est transporter ailleurs comme on livre un colis, c'est-à-dire on livre une connaissance qui était une connaissance impossible à savoir, qui dans un système ésotérique va pouvoir être livrée à un autre. Mais c'est pas ça, parce que celui qui est transporté ailleurs là, c'est pas la connaissance qui va être délivrée, c'est la personne qui reçoit cette connaissance qui va être transportée ailleurs, en fait. Comme Abraham, ou comme les Hébreux qui sont dans la lettre même d'Hébreux, ça veut dire ceux qui traverse, en fait. Et donc c'est bien ça, c'est la vérité de ce dévoilement, c'est que la personne va être transportée ailleurs. C'est pas simplement une connaissance, c'est une transformation de la personne. Ou bien révéler, par exemple, quand Dieu dit à Adam et Ève après avoir croqué le fruit, ou l'arbre qui produit du fruit, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Alors ils disent, mince, ils se mettent une feuille de vigne, en fait. Et Dieu descend, c'est très poétique, descend avec la brise du soir pour voir ce qu'il en est. Donc Dieu lui-même n'a pas la connaissance, puisqu'il se laisse surprendre, en tout cas qu'il va la chercher. Mais enfin, il va voir Adam et lui dit, mais qui t'a révélé, qui t'a fait connaître que tu étais nu? Donc Nagad. Mais personne ne lui a fait connaître. Simplement, il a eu la capacité de connaître, en fait. Et donc, je crois que la Bible est comme ça. Elle fait connaître parce qu'elle donne la capacité de connaître. Et ça, c'est Le projet, finalement, c'est le projet de la Bible. Ou par exemple, quand on dit le prophète, un prophète, c'est un voyant. Et la révélation, l'objectif est de faire voir, et donc de rendre la personne prophète. C'est le projet des prophètes à la fin, c'est-à-dire que chacun puisse devenir prophète lui-même et donc avoir accès direct à la vérité des choses telles qu'elles sont. Donc la vérité du prophète, c'est pas tant de révéler une connaissance que de faire que ceux à qui il s'adresse puissent comprendre en fait. Et donc les prophètes, souvent, ce qu'ils disent, c'est faux. C'est-à-dire, par exemple, quand Jonas s'adresse aux Ninivites, il dit encore 40 jours et Ninive sera mise sans dessus-dessous. Ben, en fait, c'est faux. Et c'est pour ça que Jonas refuse de le dire, parce que ça le chagrine d'annoncer quelque chose de faux, comme connaissance. Mais en fait, la vérité de ce texte, c'est qu'elle provoque le changement des Ninivites et donc le changement de Dieu. Donc c'est là que la vérité prophétique, la vérité de la révélation de Jonas aux Ninivites, elle est vraie puisqu'elle provoque la bonne évolution. Donc c'est là qu'on voit que cette parole, elle est vraiment créatrice, au sens où Dieu l'espère comme créatrice. Donc finalement, je suis tout à fait d'accord avec toi, la révélation, elle est histoire, mais histoire en train d'advenir en fait. Pas une histoire, bon c'est une histoire passée aussi, dans un certain sens. Mais c'est pas le but, il s'en fiche complètement en fait. Mais ça c'est dit explicitement, par exemple, à la fin de l'évangile selon Jean. Il y a une voix off où l'auteur de l'évangile selon Jean explique comment il écrit son bouquin, en fait. Et il dit, j'aurais pu remplir tous les livres du monde, n'aurait pas pu suffire pour raconter tout ce que le Christ a fait. Mais il dit, mais on s'en fiche, en fait. Ce que je vous ai raconté, c'est afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, en fait, et ce verbe croire, c'est pas le verbe de croire de la croyance, c'est pas une connaissance, c'est le verbe de la foi, donc même pas la confiance, de la relation, en fait, d'une relation. Même pas une adhésion, une relation. Une relation quitte à pas être d'accord avec Dieu, c'est pas la question, c'est tenir bon le lien avec Dieu. Et donc, on voit bien que l'objectif, c'est pas tant la connaissance, que c'est susciter une résurrection dans celui qui écoute. La question, c'est pas tant de raconter la résurrection du Christ, dont on ne sait absolument pas ce dont il est question historiquement, bien sûr, parce que c'est très discutable dans les textes eux-mêmes. Mais la question, c'est de provoquer une résurrection dans le lecteur. Et donc la vérité de ce récit de résurrection, c'est pas tant ce qui est arrivé à Monsieur Jésus que ce que ça va provoquer chez le lecteur comme résurrection. Donc oui, la révélation, moi je dirais comme histoire, mais comme histoire présente dans le lecteur qui est mis face à ce texte. Et donc, comme tu dis, c'est fou que ce texte nous parvienne entre les mains, parce que s'il ne nous parvient pas entre les mains, il existe en vain finalement, puisque cette révélation, elle est à devenir dans l'exercice d'interprétation de ces textes dans le contexte de notre existence personnelle, en fait. Et c'est là que la grâce rejoint la liberté. Je dirais, elle ne peut pas faire autrement, puisqu'elle n'a pas d'autre sens, cette révélation, que de venir susciter, permettre cette liberté, en fait.
Notre gros problème.
Je sais pas.
Je pense à ce que vous nous aviez dit. Est-ce que, en prenant les propos de Saint Augustin.
Il faut parler plus fort.
De Saint Augustin, excusez-moi, parce que j'ai des problèmes.
Je vais répéter, peut-être.
De Saint Augustin, non, mais j'essayais de parler plus fort. De ce que vous aviez évoqué à propos de Saint Augustin, dans la temporalité, les trois dimensions du temps. Et je pense que le gros problème qu'on connaît là, dans la révélation et l'histoire, moi je ne suis pas théologienne ni philosophe, mais j'ai fait de l'histoire, en revanche. Et l'histoire est vectorisée, c'est vrai, c'est vectorisé. Donc ça suppose un temps qui se déroule. Alors que je pense qu'un des gros problèmes de l'enseignement biblique, tel que les Juifs probablement ne l'ont pas compris, mais que Jésus avait intégré, c'est que finalement, c'est pas un temps qui se déroule. Le temps de Dieu, c'est pas le temps des hommes. Parce qu'on a toujours, l'envie d'anthropomorphiser toute notre connaissance, tout ce qu'on est, tout ce qu'on... Et donc, c'est comme ça que les Juifs ont interprété les paraboles, que j'appellerais plutôt aujourd'hui des métaphores, au fond. Et que tout ça a créé cette énorme ambiguïté. Cette énorme ambiguïté entre le passé et le présent. Et vous disiez, la dame qui disait, mais Jésus, il sait pourquoi il s'en veut. Mais je ne suis pas sûre qu'il savait tout le temps. Mais il y a des moments où il ne sait pas, Jésus, puisque lui-même s'inquiète.
Évidemment.
Donc, il y a des moments où il est dans l'entre-deux. Il est à la fois vrai homme et vrai Dieu, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est quand même aussi mu par le doute à certains temps, parce qu'il est un homme. Et quand il est un homme, et ben finalement, il est tiré vers cet anthropomorphisme qui fait que, finalement, l'histoire, c'est pour ça que la révélation et l'histoire, vous disiez, comment avez-vous dit votre phrase sur quoi vous avez terminé tout à l'heure?
Tu dis que c'est pareil.
Oui, c'est pareil. Moi, je ne pense pas du tout que c'est pareil. C'est pas du tout pareil, parce que l'histoire, d'abord, c'est vrai qu'en français, on a malheureusement, c'est une langue qui est très riche, le français, mais c'est pas riche pour l'histoire, parce que vous parliez des Allemands qui ont Geschichten, Historie, je n'ai pas fait d'allemand, mais par exemple en anglais, on a Story and History, c'est pas la même chose. Hein, et donc, on a le sens au plus... Enfin, la grande histoire, et puis on a une histoire, qui est plus narrative. Et je pense que finalement, avec Fernand Braudel et cette attirance qui maintenant fait tant de mal en enseignement, qui fait qu'on a complètement rayé de la carte l'enseignement événementiel, puisque ça ne se fait plus, on fait de l'enseignement qui se trimballe. Dans le monde, ça met plein de gens dans des situations intenables sur le plan de l'histoire.
Moi, d'abord, j'ai admiré, aimé le souffle qui t'a habité, je me permets de tutoyer, parce que je trouvais quelque chose d'incarné, quelque chose qui est lié à ta propre histoire personnelle. Dans une interrogation passionnée, violente, dans un sens. Et ça, je trouve que c'est très important. Ensuite, quand même, dans les débuts de ton texte, enfin de ton discours, tu associes, tu lis intimement le sens et le temps de l'histoire. Et là, il y a comme quelque chose, comme une étincelle qui se produit, quelque chose qui produit de l'histoire qui a du sens, et du sens par une histoire qui se révèle d'une certaine façon. Or, là, il y a quand même, et puis ensuite, tu parles tout de suite de la Bible, judaïque, chrétienne, il y a quand même des circonstances autour de cet événement, hein, que certainement tu connais. Il y a eu beaucoup de travaux, de faits sur l'histoire du peuple hébreu, notamment, pourquoi ce peuple-là a porté cette parole-là, pourquoi est-ce qu'il a construit cette légende, comme tu dis, de son national, de sa propre advenue. Pourquoi aussi, il n'y a pas seulement de l'histoire et du temps, mais il y a aussi un personnage, malgré tout, il y a le personnage de Jésus qui arrive après, mais il y a le personnage de Moïse quand même, qui incarne, qu'est-ce qui c'est ce personnage qui comprend quelque chose que personne n'a compris, qui est un interprète sans doute, et qui interprète aux hommes, à son peuple, quelque chose d'inouï. Alors, ce dont il est question là, c'est quel est l'événement dans l'histoire qui n'est pas simplement transcendant, une parole de Dieu, mais quelque chose de très humain, lié notamment à quelque chose que tu n'as pas peut-être suffisamment mentionné, qui est l'écriture. Le fait que cette révélation, parce qu'avant les Grecs, il y a la Aletheia, etc., chez les Grecs, le dévoilement, qui est là, immanent, puisque après Heidegger, c'est, en fait les Grecs ne l'ont pas pensé comme ça, la révélation, c'est quelque chose qui se produit très précisément à un moment de l'histoire qui n'est peut-être pas pensé par les hommes qui ont fait cette histoire, c'est-à-dire par Moïse qui a inventé quand même l'histoire juive, puis toute la succession des prophètes et l'arrivée, etc., de la répétition de la même, du même renouvellement, du même recommencement tout à fait extraordinaire, inattendu, dans des circonstances historiques nouvelles. Mais maintenant, nous savons quand même que notre histoire est beaucoup plus vieille que celle de 4000 ans qu'on pensait être celle de la Bible. Nous savons que notre histoire a au moins 40 000 ans, peut-être 100 000 ans, que nous parlons, que nous croyons à des dieux, à la présence des morts depuis 100 000 ans, et que cette histoire elle est beaucoup plus longue et qu'elle s'est faite peut-être sans l'idée d'une révélation. Parce que la révélation, il a fallu qu'elle arrive à des peuples très, comment on peut dire, très civilisés, très avancés dans l'histoire, et qui soudain pensent qu'il y a une histoire, comme l'a dit Lévi-Strauss. Les peuples sans histoire, les peuples, il disait, humanité froide et l'humanité chaude, qui est en fièvre, le monde moderne, le monde dans lequel nous sommes, c'est de plus en plus enfiévré. On voit les événements qui se produisent même à la télévision tous les jours, et il faut de minute en minute que les événements se produisent. On est dans une espèce de passion de l'événementiel, mais de plus en plus vide de sens. Alors, il y a quand même cette question de la longue histoire derrière. Il y a la question surtout centrale de qu'est-ce qui fait que quelque chose s'est recoupé entre, on peut dire, discours sensé, la possibilité du sens, et le fait de le rapporter à un événement. Cette événementialité-là, c'est quelque chose que l'humanité n'a pas pensé et qui s'est produite. Et d'ailleurs, pour des peuples qui ont précédé ce qu'on appelle la révélation judaïque, c'est-à-dire en Mésopotamie, dans l'Égypte ancienne. Donc, il y a une histoire plus ancienne que l'histoire dont tu as parlé. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, l'autre chose, je trouve très passionnant ta recherche, mais je voudrais peut-être que tu précises, disons, les bases bibliographiques, en quelque sorte, qui te permettent de dire aussi ce que tu dis et ce que tu cherches.
Je vais vous laisser, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent dire quelque chose, je ne vais pas... Je ne me refuse pas de répondre du tout, hein, bien sûr, mais...
David. Je voudrais essayer de faire état de ce que je perçois comme une ambiguïté dans le propos. Enfin, pour moi, une ambiguïté sur le rapport histoire-révélation. Comment le dire pour c'est le problème de la littérature. Je voudrais essayer de pointer, ou je vais dire autrement, je vais partir de Lévinas, ça sera plus rapide. Un texte que tu connais bien, Langage et proximité, où la question c'est le divorce entre le langage comme manifestation et le langage comme proximité. Et là, il m'a semblé que dans tout le propos, alors c'est le hegelianisme qui sous-tend le propos aussi, c'est qu'on passe constamment de la question de la révélation à la révélation dans le monde, ou à l'histoire comme histoire du monde. On peut imaginer, enfin, c'est ce que je voudrais essayer de faire valoir, je ne sais pas si tu pourras ou si on peut le recevoir, on peut imaginer. Une situation de justement celle de la littérature où l'histoire au sens de story si on veut n'est pas l'histoire du monde, n'est pas du tout l'histoire du monde. Shakespeare, Macbeth, hein, la vie est une histoire pleine de bruit et de fureur racontée par un idiot qui ne signifie rien. Kafka ou enfin bon, on peut citer des tas de textes à l'appui de cela où le sens, il a été beaucoup question du sens, n'est pas le sens d'un monde ou ne trouve pas son expression dans un monde. Alors comment? Eh bien, dans le texte de Lévinas, c'est proximité. Ou encore Lévinas faisant, soulignant paragraphe 6 et 9 des méditations cartésiennes, où il dit, où il fait remarquer en, à travers Husserl, qu'il y a une différence, finalement, une différence assez énigmatique entre l'adéquation et la codictique. Entre l'adéquat et la codictique. Et où, finalement, la codictique n'est pas fonction, ou n'est pas une expression finalisée de l'adéquation. Il y a une signification, alors là, il y a la possibilité d'une époque radicale, si je le dis dans ce sens-là, qui est non seulement le suspens de la thèse naturelle du monde, mais le suspens de la référence au monde, l'interruption de la référence au monde, Kafka, etc. Voilà, et là, on, il me semble qu'on a, on aurait un tout autre, une toute autre perspective, beaucoup plus radicale, beaucoup plus tranchée, Blanchot, de la question de la révélation, et de la question de l'histoire, par conséquent aussi. L'histoire, mais non pas l'histoire. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à vous faire entendre, c'est difficile à dire, mais c'est l'ambiguïté que je voulais prendre en compte dans le propos que tu as développé.
Monsieur ?
En fait, concernant l'ambiguïté dont parle, donc, je vais un peu l'expliquer, monsieur, avec. C'est qu'en fait, dû au fait que, ici, présentement, nous avons pas mal de doyens, et par rapport au vécu, ils sont beaucoup mieux placés pour nous éclaircir sur cette idée-là. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est qu'en fait, quand on parle d'histoire ancienne, on va parler d'abord de l'Égypte, et puis après, on passe par les Hébreux, et après, on passe par la Grèce, ainsi de suite. Et lorsqu'on parle de choses anciennes, je pense que si on prend, si on doit parler de la Bible, et de l'histoire et aussi de la théologie, parce que la théologie, en fait, les théologiens, ce sont ceux-là qui ont amélioré, c'est-à-dire que les langages qui sont tout ce qui est inscrit, était inscrit dans l'Ancien Testament, c'est les théologiens qui ont amélioré tous ces écrits-là et ont même ajouté, ont même prescrit certaines choses dedans par rapport au vécu, par rapport au présent. Je crois que monsieur qui est juste sur ma droite là-bas avait parlé de comment est-ce que ça se fait que la Russie a pu, chose comment on appelle ça, a pu si vous bien répondre, monsieur, comment est-ce que la Russie a pu s'intégrer dans le christianisme? Je pense bien, c'est la question que vous avez posée. Monsieur? C'est vous qui avez posé la question. Comment se fait-il que la Russie.
Non, ce n'est pas la Russie, c'est le marxisme-léninisme du régime soviétique
a pu
concevoir le Christ, son action. Et vous avez raison, je veux aussi bien plus penser à l'islam, mais à Mahomet et au Coran. Et je pense que ça leur pose peut-être actuellement un problème. Actuel, beaucoup plus important que ça n'a pu en poser avec l'Église orthodoxe.
Une religion d'État.
Peut-être une autre question.
Oui. Que dans le passé, il y avait même les intellectuels n'étaient pas trop vus. C'était plutôt les hommes qui avaient la possibilité d'imposer qui régnaient. Et tout ça, on les a aujourd'hui comme écrit. Je pense que notre époque, l'époque que nous vivons aujourd'hui, est une époque là où on peut rien garder, d'autant plus que si on tient compte du nouvel et de certains écrits, en fait, nous sommes à une époque où on peut se permettre de faire part des choses.
Je vais essayer, si vous voulez, puisque je.
Pardon, vas-y.
Parce que. On va pas. On peut parler longuement, moi je suis totalement disponible, hein, mais. par respect un peu sur la, pour la, la durée de ces séances, je ne voudrais pas me fuir les questions nombreuses qui ont été posées. Je ne vais pas y répondre l'une après l'autre, mais je voudrais peut-être simplement essayer de situer la question telle que j'ai essayé de la recevoir et pourquoi. Je pense que ça fait écho à ce que vous demandez les uns et les autres. Pour le dire très simplement, nous vivons aujourd'hui, les uns et les autres, dans une situation globale où il paraît admis, et c'est ce que nous, peut-être, nous éprouvons, ou qu'on nous dit que nous éprouvons, mais enfin, voilà, que nous éprouvons, disons, admettons-le, d'une grande absurdité, d'une grande vacuité de sens, de direction, etc. Les événements qui se produisent autour de nous, bon, ben, on peut réagir de telle et telle façon par rapport à tel événement, dans telle situation donnée, mais il est assez fréquent de considérer que globalement, ils sont dans un très grand désordre. Ça n'a pas été toujours le cas. En lisant Hegel, là, pour préparer cette séance, je me suis rendu compte, je l'ai lu de longuement et de près, même si je n'ai pas du tout fait un exposé sur Hegel, je me suis rendu compte que au début du XIXe siècle, par exemple, ce qui avait lieu autour de lui et autour d'eux paraissait doté d'une signification extrêmement lisible. Par exemple, je prends un exemple, le progrès constant de la liberté, hein, qui lui paraissait être le progrès constant de l'esprit, qui lui paraissait être le progrès de l'esprit, parce que pour Hegel, si j'ai bien lu, l'esprit, c'est la liberté. C'est-à-dire, ce qui définit l'esprit, c'est la liberté de l'esprit. Il le dit exactement dans ces termes. L'esprit, c'est la possibilité qu'a une certaine instance de se choisir. L'esprit, c'est la liberté de l'esprit. Donc le progrès de l'esprit dans le monde, qui lui paraît avéré autour de lui, c'est le progrès de la liberté. C'est-à-dire du fait que quelque chose, ça rejoint la question que vous posiez, monsieur, n'est pas déterminé, n'est pas prédéterminé, mais ce qui arrive comme progrès de l'esprit, et pour Hegel, assurément à travers un progrès spirituel, un progrès que nous appellerions aujourd'hui religieux, ce qui arrive, c'est que quelque chose comme la liberté s'affirme de plus en plus, mais à travers la Révolution française, par exemple. Il dit la Révolution française, c'est un immense surgissement de la liberté, c'est-à-dire de l'esprit. Voilà. C'est-à-dire du fait que les choses ne sont pas déterminées et que ça peut, que les hommes peuvent se choisir. Ça apparaissait comme une chose qui était assez claire, qui pouvait être dite et qui pouvait être considérée comme, bon, dans l'évolution différenciée de la France par rapport aux monarchies européennes, dans le fait que certaines paraissaient plus en avance et d'autres en recul, dans le rapport, la manière qu'il avait de concevoir le rapport entre une civilisation européenne et d'autres civilisations plus lointaines, etc. Pourquoi il considérait que l'une était en avant de l'autre, c'était le seul critère, c'était cette idée qu'il y avait une avancée vers la liberté. Je ne parle pas ici du fait que c'était juste ou pas, que ce soit exact ou inexact. Je parle simplement du fait que ça paraissait une lecture possible et relativement claire de ce qui avait lieu, même dans des événements, et il le dit très explicitement, même dans des événements brutaux, à contre-coup, à contre-sens, même dans les progrès de dictature, etc. Il voyait là une espèce de séisme continué dans lequel ce qui avançait, c'était l'esprit. Pourquoi ? Parce que c'était la liberté. Et au sens, l'esprit, c'est au sens de ce que lui, par moment, il fait l'équation entre esprit et raison, par moment, il fait l'équation avec Dieu. Ce sont des termes qui circulent. Je ne dis pas que tout est équivalent, mais je dis que c'est ça. Et ça fait... Si on se demande quelle lecture nous avons, nous, de l'univers dans lequel nous vivons, non seulement de l'univers humain, mais de l'univers cosmique, et je crois que c'est important de parler des deux, on a souvent l'impression que c'est quelque chose qui est dans un tel désordre qu'il n'y a aucun qu'on croit pouvoir se dire qu'il n'y a aucun sens lisible. Donc au sens propre du mot, excusez-moi de revenir sur cette équation dont j'ai bien conscience qu'elle peut être discutée, qu'il n'y a pas d'histoire racontable ou des micro-histoires dispersées, multiples, etc., diverses. Permets-moi, Alain, de te dire, avec toute l'affection et l'estime que je te porte, que c'est un peu la doxa d'aujourd'hui,
Tu vois, c'est la doxa aujourd'hui, qu'on pourrait appeler, si tu me permets la violence du propos, la doxa blanchotienne d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a pas de grande histoire, il n'y a que des proximités, des petites histoires, etc. Et ça fait, et c'est ça qui fait sens. Bon. Je pense, moi, sincèrement, que ce point de vue est absolument intenable. Non pas que la proximité n'ait pas de valeur, on n'a pas arrêté d'en parler, on y a même consacré malheureusement une séance sur Lévinas, hein, on n'a pas pu bénéficier de ta présence parce que ce n'était pas possible, c'est pas bien sûr, mais on a parlé exactement de ça, du fait que le transcendant ou le sens se joue dans cette dimension de proximité. Je ne la néglige pas du tout, du tout, du tout. Mais je ne pense pas que cette proximité, nous ayons à la pensée sur le fond d'une absence totale de sens. Ou pour le dire autrement, si je le pensais, je ne serais pas ici. Je ne serais pas venu ici. Enfin, excuse-moi, je vais juste dire un truc. Je ne viendrai pas ici. Non pas que ici, j'ai une réponse certaine, à, claire et rassurante à tout ça, mais en tout cas, c'est ici que je cherche l'idée que cette proximité, on ne va pas accuser une église chrétienne d'ignorer la proximité. C'est, je veux dire, ça ne cesse de se dire depuis les textes évangéliques jusqu'à la pratique des uns et des autres ici et autour tous les jours. Hein, il y a ça, bien sûr. Mais néanmoins, cette proximité, disons, elle fait sens. Elle fait sens dans quelque chose qui s'inscrit. Alors, pour le dire autrement, dans les événements politiques auxquels de plus d'un ici a fait allusion, comme ça discrètement depuis tout à l'heure, dans les secousses que nous vivons, qui sont énormes, qui sont des secousses historiques, au sens où au moins quelque chose comme le devenir de l'humanité est en cause et en question, le récit de l'histoire humaine est en cause et en question, je ne pense pas, personnellement, ou peut-être je ne souhaite pas, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il n'y ait que du désordre. Et si je le pensais, je ne veux pas pathétiser les choses, mais je ne serais pas ici, mais dans la Seine depuis longtemps. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais transmettre à un enfant, à quelqu'un qu'on éduque, enfin, c'est tout simplement, ça n'a pas de sens. Donc, la question, à mes yeux, c'est d'essayer de comprendre, dans les conditions qui sont celles d'aujourd'hui, qui ne sont pas celles de Hegel, dans les conditions qui sont les nôtres, comment ce sens travaille. Et donc, si on veut bien, si on n'est pas, et on n'est personne ici n'est à dire nous avons reçu une révélation qui nous dit clairement tout ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, et puis il n'y a plus qu'à être tranquille. Bien sûr que c'est pas, disons, l'esprit de la maison, pour le dire vite. Donc bien sûr personne ne pense ça, mais il y a une recherche sur la question de savoir comment ce qui nous parvient comme sens se joue non pas seulement dans le contenu de nos vies, mais dans ce que nous avons en commun tous. Pourquoi est-ce que ce qui se passe à Baltimore m'importe presque de plus près que ce qui se passe dans un immeuble en face, hein? Pourquoi est-ce que ce qui a lieu dans une usine en Chine aujourd'hui a une telle importance? Pourquoi est-ce que je travaille tous les jours avec une actrice africaine qui a fui un pays africain en guerre pour sauver sa vie et qui vient ici et avec qui nous sommes dans un dialogue permanent? Donc au fond, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue dans des proximités, tu as absolument raison, qui se joue dans des proximités, mais qui concerne l'histoire universelle. Voilà. Moi, je pense que l'histoire universelle est en question, à travers ses interrogations, à travers ses énigmes et ses obscurités, est en question dans ce qui nous arrive. Et je suis de ceux qui pense que ce sens doit être interrogé comme sens de l'histoire universelle ou des histoires universelles. Ça doit être interrogé, ça doit être recherché, ça doit être travaillé. Bon, pourquoi est-ce que ce livre nous aide-t-il à interroger ça? S'il nous aide, peut-être que certains considèrent que on n'a rien à faire, ni de ça, ni de Marx d'ailleurs, qui est héritier direct de ça, ni de quoi que ce soit, ni bon, il n'y a rien à faire de rien. Bon, à la rigueur, je ne sais pas quoi, regarder une revue de mode, mais bon, c'est tout. Et dans les revues de mode, il y a beaucoup de traces de notre histoire universelle. Donc, pourquoi est-ce que ce livre que je tiens en main peut, ou le fait d'aller écouter Marc ou quelqu'un d'autre le dimanche, tu vois, dire quelque chose à partir de ce livre, pourquoi est-ce que ça peut nous aider ou pas à explorer une espèce de tracé de nos singularités dans cette histoire universelle? Eh bien, avec toute ma passion pour la littérature Kafka compris, si tu veux, je ne me résous pas, mais du tout, à considérer que il n'y a qu'à simplement chercher dans les chemins de voisinage au sens le plus fort du mot.
C'est peut-être le thème de la liberté qui fait difficulté dans ça.
Il y avait Michel qui voulait dire juste quelque chose. Excuse-moi, Michel.
Je veux dire quelque chose de très simple, tel que je le comprends. Pourquoi il y a du sens? Parce que le monde est commun, c'est parce que l'humanité est commune. Donc il y a obligatoirement du sens, puisqu'on est dans le même bateau. C'est la première chose. Et deuxièmement, pourquoi la Bible a de la valeur? C'est-à-dire que dans le sens proposé, ça va vers la vie. Alors que notre monde commun est capable de l'envoyer vers la mort. Donc ça fait du sens parce que ça va vers le bien et non pas vers la destruction. C'est ça, enfin, pour moi, c'est.
Moi, ça me dit
comme ça et de façon
triviale. Non, je ne sais pas si on va. Peut-être il faut qu'on échange peut-être un peu entre nous. Je ne sais pas, on a le temps encore ou pas.
Le job qui peut pouvoir améliorer notre vécu, le vécu par rapport au passé. En fait, lorsqu'on prend l'Ancien Testament et qu'on prend le Nouveau Testament, il y a une amélioration. Je pense que c'est quand même censé, la Bible.
Oui, oui, bien sûr. Est-ce que, bien sûr, je ne veux pas couper la parole à d'autres. Est-ce qu'il y avait de... Monsieur, je vous en prie.
Bon, je pense que, personnellement, je suis assez porté à penser que même dans la religion. Malgré tout, je voulais faire observer que si nous avons le sentiment que souvent, et que ce monde est absurde, dans quelques dangers. Ça n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il y a des périodes de calme relatif très rapide, et puis des périodes de crise. Et là, forcément, ça remet en cause les sentiments de sécurité. Deuxièmement, il faut bien entendu sous-estimer l'importance de la technique. Si nous sommes concernés aussi bien par ce qui se passe à Baltimore, peut-être davantage, que par ce qui se passe au fond de la campagne française, dans cet état, c'est évident parce qu'on le sait, et qu'on le sait immédiatement. Et tout le monde le sait immédiatement du fait de l'Internet. Alors qu'à une certaine époque, on ne le savait pas, ou on apprenait quelques mois plus tard, en sachant considérablement des choses. En fait, c'est maintenant que je crois que ça s'applique vraiment à parole de Valérie dans le monde suivant. Ça y est, il y a vraiment un monde, nous sommes dans le monde suivant. Alors que ça n'a pas toujours été le cas au Rwanda. Ce n'était pas le cas du tout pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité. Et puis, je voudrais même remarquer quelque chose qui me paraît un peu paradoxal, mais qui, comme je dis, paradoxe, s'explique certainement assez facilement. Vous avez dit que le 19e siècle, notamment, est une période durant laquelle beaucoup de gens, même s'ils ne pensaient pas de façon aussi solide que Hegel, avaient le sentiment du progrès de l'esprit et donc de la liberté. Ce qui, je pense, fait apparaître clairement dans la littérature de l'époque. C'est aussi une époque, malgré tout, où paradoxalement, réunit la croyance dans un déterminisme de plus en plus grand au plan scientifique, des gens comme Laplace ou autres, la fameuse parole, je crois, de Laplace prétendant à Napoléon, je ne sais pas qui lui demandait comment Dieu intervenait dans sa cosmologie. Je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Mais ça, c'est une boutade. En fait, on a vécu vraiment à la suite des Lumières, du siècle, dans Newton, dans une période qui croyait que la déterminisme est de plus dur. Alors maintenant, effectivement, dans ce que vous avez dit, on peut le demander si. C'est un
sentiment. Je crois que c'est un sentiment. D'accord.
Il y a quand même une combinaison commode dans ce cas-là. Ce sentiment n'est pas en bonne partie de la prise de conscience d'une complexité beaucoup plus grande que celle que l'on pensait. Et ceci aussi bien dans le monde de la vie antique que dans le monde de la vie romande, Et ça aussi, c'est quelque chose qui, je pense, est assez encourageant, parce que finalement, nous sommes en train d'accéder à une conscience un peu plus large et du monde, et de nos possibilités. Et c'est évidemment quelque chose qui peut être traumatisant dans la mesure où ça débouche sur une prise de conscience d'aléa formidable, et qui dit aléa dit aussi, malgré tout, davantage importance de l'intervention humaine, donc de notre liberté, c'est-à-dire de notre responsabilité. Et ça peut être troublant par ça.
Merci beaucoup.
Denis, excusez-moi, là, juste parce que c'est juste pour. J'ai juste l'impression qu'il faut. Je voudrais très fort repointer, pour vous la soumettre et pour que vous, chacun y pense comme il le souhaite, repointer une. Enfin, ce que j'ai essayé de partager ce soir, c'est juste une chose. Voilà. Si je lis, ici, là-dedans, si je lis, aimez vos ennemis. Voilà, je lis ça. Qu'est-ce qui m'arrive quand je lis ça? C'est tout. C'est la question était seulement celle-là. Qu'est-ce qui m'arrive? M'arrive un énoncé, comme ça, qui dit aimez vos ennemis. Mais ça m'arrive cet énoncé. Cet énoncé a une force en lui-même que je trouve absolument prodigieuse et totalement encore en partie recouverte, pas encore découverte. Bien. Mais qu'est-ce qui m'arrive lorsque je lis ça? Ce que j'ai essayé de dire, c'est que ce qui m'arrive, c'est l'histoire de milliers et de millions de gens qui ont fait que cet énoncé ait lieu, soit formulé et m'arrive. Tout ce qui a précédé cela. Parce que qu'est-ce qu'il dit quand il dit « aimez vos ennemis » ? Il dit « on vous a dit ceci, mais et moi je vous dis aimez vos ennemis ». Donc dans cette balancement, il y a déjà toute l'histoire précédente. On vous a dit, jusqu'à maintenant, on vous a dit, voilà, et moi je vous dis, on vous a dit aime ton prochain comme toi-même, et moi je vous dis aimez vos ennemis. Bon, il y a ça. Donc il y a toute l'histoire précédente. Et puis il y a le fait qu'ils le disent, il y a le fait que cet énoncé nous parvienne, ce qui est absolument inouï, que cet énoncé nous soit parvenu. C'est absolument inouï. Il a fallu un effort collectif d'une humanité entière, un fragment d'humanité entière, pour que cet énoncé nous parvienne, c'est-à-dire non seulement pour que matériellement il nous parvienne, mais pour que nous puissions encore l'entendre, ou à nouveau l'entendre. C'est seulement ça que je veux dire. Quand il dit, ben, c'est une révélation, aimez vos ennemis. Oui, cette révélation, c'est cette histoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai rien voulu dire d'autre. La révélation, pour moi, simplement, c'est que c'est cette histoire. C'est tout.
Merci beaucoup.
Voilà, je voulais m'articuler ma réponse, parce que aimez vos ennemis, ça se trouve dans aussi, c'est repris dans les fondements de la métaphysique des mœurs, comme un des exemples des fondements de la métaphysique des mœurs de Kant. Or, chez Kant, moi, je voudrais mettre en avant une objection, c'est à moi égale, mais l'histoire n'est pas l'histoire de la liberté. Au sortir de la critique de la révolution, on aurait pu penser que Kant, qui veut parler de l'absolu au-delà de la vie transcendante, met en avant la liberté. C'est ce qu'il y a de plus partageable, et c'est bien dans l'époque, après la fiche qui a. Sauf que ce n'est pas la liberté qui met en avant, c'est la bonne volonté. Hein, au début, il n'y a rien de bon, d'absolument bon dans le monde, et même en général hors du monde, si ce n'est seulement une bonne volonté. C'est-à-dire qu'il met la liberté sous surveillance. Et puis au-delà, difficile liberté minace, et puis je prends l'œuvre de Derrida, je n'ai pas lu tout Derrida, personne n'a lu tout Derrida. Mais il n'y a pas le mot liberté chez Derrida.
Bon.
Pas pour ça de la liberté. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que la proximité, ou la révélation dont tu parles, je souscris complètement, et la proximité, c'est pas le sens de l'histoire universelle, ici, n'est pas l'histoire de la liberté. Voilà ce que je veux dire.
Donc, prochaine rencontre le 7 mars. Avec Valère Novarina, pour en finir avec le sacré, donc avec Valère Novarina, qui est un auteur de théâtre absolument prodigieux, et donc je crois que ça sera un événement, voilà, de rencontrer, de pouvoir dialoguer avec ce monsieur très très simple, et en même temps génial. Merci beaucoup Denis, encore pour cette belle soirée.